Nos vieilles gens, l'apprenti tailleur. Chapitre 7. Ma mère était à sa cuisine, faisant les apprêts du dîner. Mon père et moi poursuivions notre besogne respective. Lui, en horloger expert, limant à petits coups, au moyen d'une fine barrette, les rayons d'une roue d'échappement, moi, en apprenti, qui s'escrime à façonner au tour et au burin un cuivre de laiton. Mais je regardais souvent dehors, et mon archet s'arrêtait à tout moment dans son mouvement de va-et-vient. La neige avait cessé de tomber. On pouvait d'autant mieux mesurer l'épaisseur de la couche qui en recouvrait le sol. « Il y en a au moins 3 pieds. Qu'es-toi, papa ?»« Pas loin, pas loin, mon garçon. On peut dire que c'est beau pour la saison. » Voilà le chemin qui s'est passablement rebouché depuis que le triangle a passé. À propos, ça me fait repenser à une chose. Es-tu allé plus loin que chez Bloom avec le triangle? Le tailleur était arrivé un bon moment avant toi. Non, seulement je m'étais arrêté sur le crêtet pour dire à André de ne pas se montrer, attendu que son maître allait passer. Ah, bon, je comprends. Tu as bien fait. Et comme se parlant à lui-même, mon père ajouta d'un ton pensif « Il s'agit d'aller parler de tout ça avec le greffier. » C'est ce qu'il fit après le dîner, au lieu de se remettre à son établi. Il en avait auparavant conféré avec ma mère, qui lui apporta ses souliers bien graissés et ses grandes guêtres de Mylène. Tout en lui aidant à boucler ces dernières, elle ne ménagea pas les recommandations à son mari et conclut comme suit « Surtout, n'allez pas, toi et le greffier, vous laissez aller à remettre ce garçon chez un pareil estafier. Qu'il ne puisse pas rester chez ce vieux sacreur de Charles-Aimé Gentil, ça, je le comprends. C'était bon pour le premier moment. Mais il faut bien qu'il apprenne une profession, que ce soit celle de tailleur ou une autre. » On ne peut pas mieux dire, fit mon père avec un hochement de tête approbatif. Enfin, nous examinerons l'affaire avec le greffier. C'est un homme de ressources. Ce ne fut que vers 3 heures que mon père rentra, et je vis tout de suite à son air qu'il y avait du nouveau. « Ta mère, où est-elle? Vers la tante Julie ?»« Non, au coin, chez l'oncle Philibert. »« Ah, bon, je comprends. C'est par rapport à son voyage au Locle. » Il enleva ses guêtres, changea de chaussures, s'adossa un moment contre le poêle, puis fit 1 ou 2 tours par la chambre, comme s'il était trop agité pour se remettre tranquillement à sa besogne ordinaire. La curiosité me tenaillait. Mais bien que je me gênasse moins de mon père que de ma mère, je n'osais pourtant pas me risquer à le questionner de but en blanc sur ses démarches. Il avait été sans doute chez le tailleur, avec monsieur le greffier, et l'entrevue devait avoir été orageuse. À quoi avait-elle abouti en ce qui concernait André? Comme il y avait, bien sûr, un contrat d'apprentissage entre Bloom et la chambre de charité, le tailleur avait peut-être exigé que son apprenti rentrât chez lui, ou fait des façons pour le lâcher définitivement. Qui sait, réclamer des dommages? Il en était bien capable. Je guettais mon père du coin de l'œil, dans ses allées et venues, tout en retournant dans mon esprit toutes sortes de formules d'interrogation, afin de choisir celle qui pourrait lui paraître le moins indiscrète, quand il m'interpella lui-même. « Eh bien, Charles-Auguste, tu peux être content. Ton André n'aura plus rien à démêler avec Bloom. Le vilain sire a levé le pied. »«
Il est parti ? » m'exclamai-je tout saisi.
« Oui, il a planté là sa femme, en lui laissant ses dettes sur le dos. Son lait, sa viande, son pain, il paraît qu'il doit tout. Enfin, la sagne est déquenillée de ce gueux, mais c'est sa femme qui est à plaindre. »
Comme il prononçait ces derniers mots, ma mère entrait.
« Je gage que c'est de la femme de Bloom que tu parles, » dit-elle avec assurance. « Tout juste, » répondit mon père qui poursuivit d'un ton animé. « Il a décampé, le schnappant. »«
Ça ne m'étonne rien du tout, » déclara ma mère.
« À cause de son apprenti, je pense. Il aura eu peur d'avoir maille à partir avec la justice. C'est moi qui lui ai mis la puce à l'oreille, mais je ne le regrette pas. Oh, puis il y avait autre chose. Il était au bout du rouleau. La femme nous l'a bien avoué, au greffier et à moi.
Ils sont remplis de dettes. J'en avais déjà entendu des sons par Olivier Vuille, chez le lieutenant. Ou Blum a un gros compte de lait. Il ne l'a jamais payé qu'en promesse. La femme nous a fait pitié. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Si Abraham Louis Richard fait barre sur l'immeuble de Blum pour se payer de sa location, je n'en serai rien surpris. Il est clair qu'on va lui prendre tout ce que la loi permet et qu'elle sera forcée de quitter son logement. Abraham Louis n'a pas le cœur tendre et il n'a pas coutume d'attacher ses chiens avec des saucisses.
Ma mère écoutait avec un hochement de tête, exprimant sa compassion pour la femme du tailleur. Cependant, ce ne fut pas d'elle qu'elle parla, mais d'André. « Et l'apprenti ? » demanda-t-elle. « Avez-vous décidé quelque chose à son endroit ?»«
Voici ce qui en est, » répondit mon père, qui s'était mis à cheval sur sa chaise et tournait le doigt à son établi.
« Le greffier et moi, nous avons passé chez Charles-Aimé Gentil, autrement dit, le père Sobise, qui est si tellement perclus de ses rhumatismes qu'il ne saurait que devenir sans le petit Pernou. Un garçon qui a de l'œil et de l'escient, celui-là. Tu aurais du plaisir, Henriette, à voir comme il tient ce ménage propre. Nous l'avons trouvé qui raccommodait les nippes aux vieux soldats. Pour le moment, il est bien où il est. Plus tard, on verra. »
Ma mère approuva de la tête, et moi, me rengorgeant mentalement, j'admirai une fois de plus la sagacité remarquable dont j'avais fait preuve en procurant du même coup un gîte à l'apprenti tailleur et un auxiliaire précieux aux vieux soldats dans l'embarras. L'amour-propre est un travers commun à tous les humains et j'en avais ma large part. Ma mère, qui connaissait son fils, ne perdait jamais une occasion de lui rabattre le caquet.
« Ah, voilà !» fit-elle avec un regard à mon adresse. « Il n'y a rien de tel que d'avoir la vie dure pour vous apprendre à vivre. André Pernou n'a pas eu toutes ses aises, lui. Depuis tout petit, il a appris qu'on n'est pas venu au monde pour s'amuser. Ce n'est pas comme certains garçons qui n'ont jamais eu que la peine de se laisser bien soigner, bien dorloter, et qui trouvent pourtant à redire à ceci, à ça, à la nourriture, à leur lit, à leurs habits, et avec tout ça, qui n'auraient pas seulement l'idée de donner un coup de main dans le ménage, pour épargner de la peine à leur mère ou à leur père. » Je baissais un peu le nez et me remettais tout doucement à mon ouvrage. C'était bien à moi que ce discours s'adressait, car le fait était indéniable. Je n'aimais pas outre mesure à me donner de la peine, et j'étais friand au point de prendre des airs malheureux ou boudeurs chaque fois qu'apparaissait sur la table du dîner un plat qui n'était pas de mon goût. Par exemple, j'abominais les choux raves et les carottes en tant que légumes bouillis, alors que je le croquais très volontiers tout cru entre les repas. Puis je n'étais pas serviable, hélas. Non, un garçon de mon âge n'aurait pas dû se faire dire si souvent par sa mère « Mes seilles sont vides, Charles-Auguste, va voir me chercher de l'eau. » Ou bien « Je n'ai plus de bois, si tu pensais pourtant à m'en apporter, toi qui as des jeunes jambes. » J'allais à la fontaine ou au galta, bien entendu, sans me le faire dire deux fois, mais je n'y mettais pas toujours toute la bonne grâce voulue, et d'ailleurs, l'acte n'avait plus le mérite de la spontanéité. Mon père, estimant sans doute que j'avais été suffisamment humilié, eut la charité de détourner la conversation. « À propos, Henriette, et l'oncle Philibert, est-il d'accord de te mener au Locle ?»« Ça va bien sans dire. » Je le savais du reste. À peine j'en ai eu touché un mot qu'il m'a fait de son air guilleret. « Padier, feuilleta, te me fais gros piaser. » « Parbleu, ma fille, tu me fais gros plaisir. » « Et je gage, » fit mon père en souriant, « que le brave oncle n'a pas manqué l'occasion de dire aussi « À ton 500 grands services. » C'était le mot de prédilection du complaisant oncle Philibert. Ma mère se dérida et fit un signe affirmatif. Mais elle revint subitement sérieuse pour ajouter « C'est pourtant une misère qu'un si brave homme se laisse pareillement marcher sur les pieds par cette pièce de Mélanie. Veux-tu croire qu'à cette heure, le lit de l'oncle n'était pas refait ? Elle était peut-être en train de faire son samedi, » suggéra mon père d'un ton conciliant. « Son samedi, si tu t'imagines qu'elle balaye ou qu'elle nettoie un peu plus le samedi qu'à l'ordinaire. Sais-tu où elle était ? Ce qu'elle faisait, En sortant de chez l'oncle, est-ce que je n'ai pas vu cette fainéante qui batouillait sur la porte à l'ancien gros Pierre, avec la longue Évodie, une fille de son calibre ? Qui se ressemble s'assemble. J'ai été l'accoster, et tu peux compter qu'elle a eu son compte par devant l'autre. Mais, ouais, ça n'a pas plus de vergogne. Quand je lui ai dit que j'avais dû refaire moi-même le lit de l'oncle, cette mauvaise pièce ne m'a-t-elle pas répondu avec une courbette ? Bien obligée, madame. Une corvée de moins pour moi. J'ai dû me retenir pour ne pas la gifler. Mais je lui ai dit son dedans et son dehors, et l'évodie gros Pierre en a pu faire son profit. Elle est moins effrontée, elle. C'est une justice à lui rendre. Tout doucement, elle s'est renfilée dans la maison, toute rouge de vergogne, tandis que cette drôlesse de Mélanie levait les épaules, comme une malhonnête qu'elle est, et me tournait le dos, comme pour mieux me montrer sa... fit bruyamment mon père, qui parut pris d'un enrouement subit. Ma mère se mordit les lèvres. Elle avait certainement oublié ma présence, car si par devant moi elle ne se gênait pas de critiquer vertement les façons d'agir de la petite bossue, elle avait d'autre part trop de cœur et de bon sens pour faire allusion à sa tournure contrefaite. Aussi, avec sa droiture naturelle, réprouvant le mot qu'elle avait failli lâcher, ma mère conclut-elle en ces termes. Ce n'est pas sa faute à cette Mélanie si elle est bossue, c'est bien clair. Mais elle vous fait sauter en l'air, finalement, avec ses manières effrontées et sa langue de serpent.